Bien chers frères et bien chères sœurs, encore une fois, que l'amour, la joie et la paix du cœur du Père soient toujours avec vous. Bon après-midi, et nous poursuivons l'enseignement amorcé au cours de l'avant-midi, et si vous vous souvenez bien, nous étions en train d'étudier ou de souligner qu'il y a trois divergences notables qui amène, veut pas, les autorités en Église et les prophètes en Église à devoir faire des ajustements mutuels. Et nous avions vu la première divergence, nous étions dans la seconde et tout près de la terminer. Et avant de terminer cette deuxième divergence, comme j'ai parlé cet avant-midi de la façon de procéder habituelle des évêques, je vais dire maintenant quelques mots sur le spécifique du modus procedendi des prophètes eux-mêmes. Eh bien, la manière de procéder des prophètes varie à l'infini, de l'un à l'autre. Chacun, chacune, a d'abord sa manière propre d'être rejoint et inspiré par l'Esprit. Ensuite, à des manières inspirées bien diverses d'agir et de réagir, de parler et de faire. D'ailleurs, on l'expérimente abondamment au sein de nos fondations avec tous ceux et celles qui nous fréquentent, qui ont eu, ont ou auront à prophétiser d'une manière ou de l'autre. Il n'y en a pas deux qui sont identiques. Et ça rejoint l'exclamation de saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, diversité de ministères, diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui produit tout en tous. On ne peut donc pas, et on ne doit pas contrôler, ni trop encadrer toutes ces légitimes et bienfaisantes spontanéités de l'esprit. Leur variété n'en est d'ailleurs, comme je le dis souvent, qu'à son début. L'Église n'a pas fini d'en découvrir de plus en plus. Et c'est pourquoi, ici aux Fondations, nous laissons toutes ces fleurs spirituelles s'épanouir tout à fait et dans la plus grande liberté et chaleur des feux d'amour de l'Esprit. Notre vigilance n'est jamais interférence. Et on va ainsi de surprise agréable en surprise encore plus agréable, car avec lui, il ne peut en être autrement. Donc, pour récapituler cette deuxième divergence, encore une fois, le prophète reçoit son appel et sa mission, non pas de l'évêché, mais du Seigneur. Parfois même sous forme de message explicite, clair et net, qui peut prendre presque l'allure d'une lettre de nomination. Le prophète reçoit son autorité et sa juridiction, non pas de l'évêché d'abord, mais du Seigneur d'abord. Tant mieux si l'autorité diocésaine, à la condition qu'elle soit apte à discerner spirituellement ou charismatiquement, daigne y ajouter une caution morale. Le prophète reçoit ses exigences, ses particularités, son échéancier au fur et à mesure. Donc, il lui est impossible de soumettre d'avance un plan d'ensemble avec des étapes précises et assurées. Il doit donc, enfin, à ses risques et dépens, procéder souvent, sans mandat canonique, ou mission officielle, sans appui, avis ou encouragement préalable. Il y a également une troisième divergence. Elle se situe cette fois au niveau du discernement spirituel requis face au prophétisme spirituel. Et cette divergence, croyez-moi, elle est de taille. À moins d'être un imposteur ou complètement dans l'illusion, ce dont une vraie communauté peut nous protéger, celui ou celle que le Seigneur choisit et mandate pour exercer en son nom l'office prophétique apprend normalement, progressivement, deux choses. D'abord, à pouvoir repérer de mieux en mieux la longueur d'onde sur laquelle le Seigneur l'inspire et lui fait signe. Et ensuite, à se familiariser avec la langue et le style que le Seigneur entend utiliser avec lui, au point de pouvoir aisément, avec le temps, en découvrir l'authenticité chez tous les autres, prophètes ou non. L'instrument choisi et docile devient donc apte avec le temps à toujours pouvoir distinguer en son cœur, clairement, avec sécurité, entre ce qui vient vraiment de l'Esprit du Seigneur et ce qui vient uniquement de lui, de son intelligence, de son intuition, de son imagination. Ça devient tout à fait clair et distinct pour lui. Alors, on imagine dans quelle impasse se trouve un prophète quand la personne en autorité avec laquelle il doit collaborer est elle-même inexpérimentée ou ignorante en cette matière. Disons que la compétence en ce domaine important et délicat ne vient pas, hélas, avec la lettre de nomination. L'expérience spirituelle ne s'injecte pas non plus. Alors, si la personne en autorité est inapte à distinguer en elle-même d'abord entre la voix du Seigneur et sa propre voix intérieure, elle ne saura jamais le discerner correctement ou avec certitude chez les autres. Or, hélas, avouons-le à notre courte honte, c'est très, très fréquent en Église. L'impasse, vous l'imaginez comme moi, est grave et peut même conduire quelqu'un ou quelqu'une à reprendre les exclamations célèbres de Saint Pierre et de Saint Jean, Actes des Apôtres 4, 19 et 5, 29, quand ils s'exclament « Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez ou l'écoutez, lui? À vous d'en décider. Quant à nous, il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Mes chers amis, ces trois divergences sont là, en place, et à mon humble avis, sont là pour y demeurer. Et c'est là que le défi doit être relevé, dans une église comme la nôtre, ou dans toutes ces églises particulières à travers le monde. Il est important que malgré ces divergences, nous puissions faire renaître et consolider le couple apôtre ou successeur d'apôtre et prophète, successeur des prophètes. Les prophètes d'aujourd'hui, non seulement ils existent, mais je le dis avec conviction, l'Église ne saurait s'en passer. Ils sont choisis par le Seigneur, à sa guise à lui, pour là ou les missions de son choix à lui. Ils reçoivent de lui leur visa et doivent y donner suite. Et comme je disais à un évêque un peu en boutade, ce qu'un prophète a à dire ou à faire, prenez-en votre parti. Ça vous semblera toujours hors de l'ordinaire. Tant mieux si en même temps, ce n'est pas trop hors des ordinaires. Qu'on le veuille ou non, en effet, quand il exhorte et rappelle à l'ordre, interpelle fraternellement des individus ou des groupes, le prophète spirituel va toujours déranger, secouer, et parfois même se trouver aux prises avec une autorité ou des autorités qui ne peuvent entendre, comprendre et admettre. Le prophète authentique sait que ça fait partie de son chemin de croix. Il doit rester calme, patient, respectueux, compréhensif envers les incompréhensions et envers la ou les dites autorités. Mais, par ailleurs, il doit rester debout, obéissant au Seigneur, et poursuivre sa route s'il sait que c'est le bon vouloir divin. En d'autres termes, les hésitations et les réactions négatives, même de l'autorité, méritent écoute, attention, prière et discernement supplémentaire, compréhension, respect, mais ne deviennent pas pour autant les normes supérieures de sa mission prophétique. Le Seigneur, en établissant la hiérarchie dans son Église, prévoyait fort bien que dans le concret, au cours des siècles, certains chefs ecclésiastiques ou religieux pourraient faillir à leur tâche et seraient inaptes à bien discerner son vin de ravitaillement en Église. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a prévu des prophètes capables de susciter de bas en haut, de gauche à droite, des réflexions, des prises ou des reprises de confiance ou de conscience. Il arrive même, il ne faut pas l'exclure, que certains hauts fonctionnaires en Église reçoivent, en outre, eux aussi, des missions de prophètes. Non pas en tant que fonctionnaire, mais à titre personnel. Alors, mes chers amis, vous voyez là qu'il y a lieu à des hésitations et à un besoin de recherche de collaboration. Et je voudrais ici ouvrir une parenthèse, parce que souvent des gens nous demandent, mais qu'est-ce que les évêques pensent des fondations, de ce que vous dites, de ce que vous faites? Est-ce que vous êtes cautionné par les évêques? Eh bien, je veux partager avec vous les faits suivants. En avril 1975, lors de cette mémorable assemblée plénière de l'Épiscopat à Ottawa, où on m'avait invité à venir exposer ce plan, ce rôle, la nature des fondations, un autre évêque est intervenu en disant ceci, je le cite entre guillemets, « Les fondations, une fois lancées, vont-elles, elles aussi, comme tous les organismes qui se créent depuis le Concile, revenir vers nous un bonjour pour solliciter notre approbation, notre soutien moral ou même notre aide financière? Fermons les guillemets. À cette intervention, ma réponse a été vive et claire. Et j'ai dit, entre guillemets, « Non, jamais. Je vous le promets. Dieu y pourvoit. Nous comptons et devons voler de nos ailes avec tout notre zèle. Nous ne demandons et ne demanderons ni patronage, ni bénédiction spéciale, ni approbation de l'Épiscopat. Nous nous contenterons de vous tenir au courant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, c'est tout. » Et fermons les guillemets. Ma mise au point a provoqué joie, satisfaction et soulagement dans la salle, et même certains applaudissements. Et vous comprenez que c'était quelques années après le Concile où tout le monde affluait vers la conférence épiscopale pour se faire bénir, se faire approuver, se faire soutenir et se faire financer. Mes amis, nous n'avons jamais changé d'idée depuis. Et nous ne désirons aucun cautionnement actuel ou futur de la part de l'Épiscopat. Et ça, j'ose le dire en boutade, pour au moins 143 raisons, dont les trois premières seraient à elles seules suffisantes. La première, les évêques ne le peuvent pas. La deuxième, les évêques ne le veulent pas. Et la troisième, les évêques ne le doivent pas. Primo, les évêques ne le peuvent pas. En effet, les évêques ne peuvent cautionner officiellement un organisme prophétique qui est en constante évolution, très peu structuré, nullement institutionnalisé en tant qu'œuvre du Seigneur, changeant souvent sous les inspirations, même bien priées et discernées, reçues au fur et à mesure du Seigneur. Nos seigneurs, les évêques, n'auraient jamais les garanties préalables et habituelles de continuité auxquelles ils tiennent toujours tant. Et quant aux fondations, nous n'avons pas le choix. Cette nature prophétique nous oblige à être disponibles et dociles à 100% au Seigneur qui nous tient toujours sur le qui-vive et nous empêche de nous structurer, de nous installer. Je dirais en second lieu, les évêques au fin fond ne le veulent pas non plus. Comment voudraient-ils cautionner des organismes, car c'est maintenant connu, qui proclame et réclame un style de pensée, de vie, de fonctionnement en Église, tout autre que celui qui est encore présentement le leur? Finalement, je dirais, les évêques ne le doivent pas. En effet, comme les fondations sont essentiellement de nature prophétique, les évêques ne doivent pas approuver d'avance le prophétisme. Ils doivent attendre que l'inspiration prophétique vienne, se prie, se discerne, s'exprime et se confirme. En bref, compte tenu de ces trois premières explications, et je vous fais grâce des 140 autres, les fondations ne voient aucune possibilité ni utilité à demander ou à attendre une reconnaissance officielle ou un cautionnement quelconque de la part des évêques. Ce serait courir un risque inutile de frustration de part et d'autre et de mettre l'épiscopat dans l'eau bouillante. immédiatement, je vous entends monter, j'entends monter dans votre cœur, mais alors, est-ce que c'est l'impasse définitive? Est-ce que c'est la brouille, le divorce, la séparation? Mais pas du tout. Il nous faut, à cause de cela, suppléer par deux moyens importants. L'information des évêques en primeur et une collaboration régulière. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Je viens d'évoquer comment nous avons pris notre essor au vu et au su de l'épiscopat. Et depuis 15 ans, l'épiscopat a toujours été mis au courant, en premier lieu, de toute initiative nouvelle. Notre souci d'information va même jusqu'à donner des préavis, ce qui est assez unique au monde. 2 ans avant les dernières interpellations, essor ou déclin de l'Église, les évêques du Québec, en date du 23 mai 88, donc 2 ans avant leur lancement, ont été prévenus que les prochaines interpellations porteraient sur l'Église du Québec et, incidemment, à travers l'Église du Québec, sur l'Église universelle. Et 2 ans avant leur lancement, dans un souci de collaboration, j'ai sollicité une entrevue auprès de l'archevêque président de l'Assemblée des évêques du Québec. 1 an avant le lancement des interpellations, j'ai également sollicité une entrevue auprès de mon archevêque cardinal à Montréal. Toujours avec ce souci d'informer les évêques, de pouvoir partager par anticipation notre travail et cette mission prophétique. Également, nous avons cherché depuis le début à entretenir une collaboration régulière avec l'épiscopat et nous souhaitons qu'elle devienne de plus en plus assidue avec au moins un évêque vraiment représentatif de ses collègues. Un évêque ouvert au nouveau style en Église et au prophétisme en particulier, et un évêque aussi apte que possible à vouloir, comme nous et avec nous, entendre, comprendre, apprendre au fur et à mesure ce que le Seigneur nous offre dans le nouveau renouveau continu en Église. Un évêque a d'ailleurs, par écrit, au long et au large, depuis plus de 2 ans, des suggestions concrètes de notre part à ce propos, à propos de ce désir continu de collaboration. Mes chers amis, quand je dis qu'on ne choisit pas le ou la prophète, ou le ou la messager ou messagère par lequel le Seigneur désire ou daigne nous interpeller, je parle en connaissance de cause. Vous savez qu'au début de nos fondations, notre équipe a compris jusqu'à 5 prêtres collaborateurs, collaboratrices, en plus de 5 laïcs, une femme et 4 hommes, et parmi cette équipe de 10, le Seigneur a posé son regard sur cette laïque, Isabelle Gauvin, la seule femme parmi les 9 hommes. Et elle qui n'avait fait aucune étude spécialisée en sciences religieuses, ecclésiastiques ou théologiques, il l'a choisie, lui le Seigneur, pour être son instrument prophétique parmi nous. Et devant cette mission prophétique, je l'ai souvent confiée, 5 prêtres, nous avons eu 5 perceptions et réactions différentes. L'un n'a pas du tout vu ni saisi qui elle était et ce que le Seigneur lui a demandé d'être. Un autre l'a bombardée de questions, a eu toutes les réponses et la questionnerait sans doute encore si elle vivait. Un en a attrapé une frousse incroyable de tout ce qui est action de l'Esprit ou du Seigneur. Un autre a été profondément touché dans sa vie spirituelle intérieure et personnelle, et son ministère en est resté marqué. Pour ma part, alors que j'étais le chef de file, en autorité, donc le plus susceptible d'être susceptible, d'être menacé ou dérangé par tout leadership venant d'un ou d'une autre, j'ai eu la grâce, la chance et la joie de saisir le plan magnifique du Seigneur qui avait recours à elle, parce qu'elle était beaucoup plus disponible, abandonnée, désencombrée, docile, humble et simple que nous tous. En elle et par elle, il, le Seigneur, passait tellement plus facilement, sûrement, totalement. Par elle, il avait la voix VOIE et la voix VOIX claire. Je suis sûr de sûr que les 9 messieurs que nous étions n'aurions jamais opté pour une première ministre comme elle, au point de départ, pour nous amener surtout à cesser de penser, de nous dépenser selon le style actuel en Église, et de commencer à repenser de A à Z notre style de vie et de comportement en Église. Mais lui, le Seigneur, savait plus et mieux que nous. Il a choisi la meilleure et a réussi à tout mettre en branle, dans les 2 sens du mot, c'est-à-dire que certains ont été ébranlés et d'autres branlent encore. Mes chers amis, passons maintenant à la 4e partie de cet enseignement. Je vois que le temps file, je déplore, je n'aurai sûrement pas le temps de tout parcourir ce que j'aurais aimé partager avec vous, mais gardons ce rythme. L'important, c'est de bien faire. Et nous allons garder ce tempo. La 4e partie, je l'intitule « Nécessité et urgence d'un retour au vrai prophétisme spirituel en Église ». Le Seigneur, mes amis, vous le savez comme moi, est toujours actuel dans son Église. Et il ne veut pas la laisser s'endormir, la laisser cogner des clous, s'engourdir ou s'engloutir, perdre sa force ou son dynamisme. Et c'est pour cela que le grand prophète qu'est Jésus-Christ recourt à des hommes et à des femmes comme nous, prophètes choisis pour secouer à sa façon l'Église ankylosée ou somnambule. Le prophétisme, c'est donc le moyen par excellence que le Seigneur a prévu pour climatiser spirituellement, au jour le jour, son Église. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'en est un important. En ce sens, les prophètes sont comme des bouches d'air nouveau, inspirées pour purifier, oxygéner l'air qui recircule en Église. Et le Seigneur prévoit de ces bouches d'air spirituelles nouveaux dans tous les secteurs, toutes les catégories, à tous les niveaux, dans toutes les régions. Il s'en choisit parmi les évêques, les prêtres, les laïcs, les religieux, les religieuses. C'est son choix et pas le nôtre. La plupart sont appelés à interpeller leur milieu respectif, Et parfois, certains se voient confier une mission qui déborde leur propre territoire ou secteur. La majorité des missions prophétiques demeurent privées, discrètes et sans publicité. Si, bien entendu, les personnes accueillent elles-mêmes directement le Seigneur ou accueillent ses messagers discrets auprès d'elles. Si, par ailleurs, elles font la sourde oreille ou entendent sans donner suite, le Seigneur doit alors inventer des moyens plus percutants et secouants. Or, en Église, au Québec, comme dans bien d'autres églises particulières, il faut bien l'avouer à notre courte honte, on a eu l'oreille dure aux appels discrets, directs et réitérés du Seigneur. On a non seulement cessé d'écouter nos prophètes et ses messagers, mais on a tout fait et on tente encore à tout prix de les faire taire et de les tenir en respect. On ne veut entendre que ce qui nous plaît, justifie nos options, confirme nos prises de position. Le Seigneur n'a plus le choix. Il doit nous parler fort et clairement. Et je puis vous confier, mes amis, fort charitablement, mais clairement, qu'il entend bien le faire de plus en plus à compter de maintenant. Le Seigneur ne mâche pas ses mots. Je cite Saint Matthieu 10, 13, 15. Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, Sodome et Gomorre seront traités moins sévèrement que cette ville. L'Église ne peut prétendre être elle-même une source de climatisation pure, nouvelle et constante pour le monde d'aujourd'hui, à l'extérieur d'elle, si les bouches d'air intérieures sont fermées. Elle n'envoie dans le monde alors que son propre air recirculé et vicié. Il en va de même de chaque individu, qui ne peut transmettre autour de lui que ce qu'il accueille d'abord en lui. S'il n'accueille pas d'air nouveau de l'esprit, il diffuse alors autour de lui que son propre air. On expire que ce qu'on respire ou aspire. Le prophétisme en Église, c'est un apport constant donc d'air pur, nouveau et renouvelant sans cesse. On le sait d'expérience, du bon air, même purifié de ses poussières, s'il est toujours le même, finit par manquer d'oxygène. C'est la même chose pour l'Église. On a besoin de ces prophètes qui sont des bouches d'air nouveaux, des échangeurs d'air trop longtemps recirculés. Et quand l'Église se met à boucher ou à faire taire ses entrées d'air que sont les prophètes, c'est surtout elle qu'elle pénalise. Car au fond, le prophète, lui, garde quand même sa terre qui vient de Dieu. Ne l'oublions jamais, le Seigneur a prévu plus de bons et vrais prophètes que Judoka le fourbe, le malin, n'est capable de recruter et de faire agir de faux ou mauvais prophètes. Mais si on bouche les bonnes entrées, on fait taire les bons et vrais prophètes, par peur, par erreur, par ignorance, ou par soi-disant prudence, tout le système est débalancé et les bouches d'air polluants ou viciés prennent le dessus. En terminant cette comparaison, je dirais qu'un prophète à l'œuvre agit également comme un purificateur d'air, comme un ionisateur. Même dans ces lieux les plus saints, l'Église n'est pas à l'abri des formes nombreuses de pollution qui atteignent les corps, bien entendu, mais aussi les esprits, les idées et les opinions, les cœurs et les sentiments, et n'épargne ni même les idées, ni même les sentiments recommandés de l'Évangile. Mes chers amis, il est indispensable, croyez-moi, non seulement d'accueillir, mais encore de réhabiliter, de favoriser et de soutenir le prophétisme spirituel authentique en Église. Pourquoi? Pour une foule de raisons. Et je me limite à en expliquer et à en commenter une. Dans tous les domaines de la vie, tant individuelle que collective, dès qu'il y a des dérèglements évidents, les réactions suivent assez vite, soit à l'intérieur, soit de l'extérieur. Prenons comme exemple quelqu'un qui s'adonne à l'alcoolisme, à un moment donné commence à avoir des troubles, des maux de tête, toutes sortes de complications d'ordre physique. Quelqu'un qui s'adonne à des excès de table, eh bien l'indigestion, la crise du foie est là pour l'alerter. Quand on fait une mauvaise gestion administrative, immédiatement la faillite ou la menace de faillite sonne l'alarme. Quelqu'un fraude, il y a des inspecteurs, quelqu'un fait des excès de vitesse, il y a la police. Et si quelqu'un fait de l'espionnage, il y a le contre-espionnage. On se rend donc compte assez vite qu'il y a faute et qu'il faut y remédier. Or, dans tout le domaine spirituel, ce n'est pas la même chose. Les dérèglements en cours ne sont pas toujours évidents. Et on en perçoit les conséquences souvent beaucoup plus tard. Prenons des cas concrets. Les gens qui souffrent de sous-alimentation spirituelle, d'anorexie spirituelle ou de suralimentation, de boulimie spirituelle ou de mauvaise alimentation spirituelle n'en voient les répercussions parfois plusieurs années plus tard. Des mauvais choix de vocation, des fausses spiritualités, des activités apostoliques nuisibles, des succès d'années de tout genre, une vie d'hyperactivité apostolique produit un burn-out, souvent plusieurs années après. C'est la même chose pour les groupes et les mouvements qui turbinent à fond, mais à faux. Pour les communautés religieuses qui, de bonne foi, se lancent dans la mauvaise direction ou dans un détour inutile. La même chose avec des diocèses, des paroisses, même animées par les meilleurs comités et les plus grands experts, et même une Église comme la nôtre. Or, le Seigneur, bien au courant de tout cela, va au-devant de nos besoins et de nos dérèglements spirituels. Et je dirais même, va même au-devant de nos désirs. Et c'est la raison d'être du prophétisme. Le Seigneur a inventé et entretenu le courant prophétique spirituel. Et il charge des instruments de son choix de jouer constamment ce rôle d'éclaireur, ce rôle avant-coureur, de messagers qui vont au-devant des coups, des complications, des anémies spirituelles, nous suggère avant que les conséquences éclatent, et ce, en son nom, comme grâce gratuite du ciel, à leur risque et dépens, ce qu'il faut faire. ou ce qu'on devrait faire. En d'autres termes, Dieu qui lit au fond des cœurs et qui sonde les reins voit clairement non seulement les dérèglements et les débalancements qui s'installent dans notre organisme spirituel individuel ou collectif, mais aussi il repère immédiatement les appels non répondus, les grâces non accueillies, et il voit venir les conséquences graves et alors délègue ses prophètes. Au lieu d'attendre la crise ou l'échec, il inspire à certains la grâce de discernement anticipé de tout cela, avec et comme et en lui, pour qu'ils alertent les concernés, souvent des années à l'avance. Le prophète n'arrive pas à son temps avec un petit S, son temps à lui, en termes de calcul humain, mais à son temps avec un grand S, à lui le Seigneur, où il croit que les justes pourront voir et entendre, pourront accueillir et se corriger, se repentir et se remettre à sa suite. Bien entendu, les autres, qui sont spirituellement sourds ou aveugles, ne saisiront pas ces interpellations, pourront les discuter, les critiquer, les repousser, mais ce n'est pas d'abord à eux ou elles que le prophétisme s'adresse. Mes chers amis, d'ici la parousie de Jésus, il faut s'attendre à ce qu'une phalange de prophètes vont se manifester pour proclamer la parole et donner des explications de la vie divine du Seigneur Jésus, fils de Marie de Nazareth. On en a déjà des confirmations évidentes et chez des tout jeunes, de 6, 7 ans, 10 ans, 12 ans, qui s'expriment clairement, avec audace, bien au-delà de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils comprennent, et peuvent eux-mêmes préciser. Or, malheureusement, notre Église institutionnelle n'est pas encore prête, disposée, apte, semble-t-il, à cette prolifération. On n'a pas vraiment développé comme il faudrait la volonté, l'aptitude ou l'habitude d'accueillir, de discerner, encourager et accompagner les vrais de vrais prophètes. On a au contraire développé un esprit de peur et de méfiance, de doute et de soupçon. Très nombreux pasteurs ont tout simplement supprimé